ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence, mardi le 10 mars. Nous sommes en direct et aujourd'hui, nous recevons Sylvie Lauzon, elle est directrice générale de la Fondation des Petits Trésors. Sylvie Lauzon, eh bien, on l'a connue comme animatrice et journaliste télé-radio. Elle est maintenant directrice générale de cette fondation, Fondation des Petits Trésors, depuis 2012. La Fondation des Petits Trésors de l'hôpital Rivière des Prairies dédie son action exclusivement pour la cause de la santé mentale des enfants et des adolescents du Québec. On estime à environ 250 000 le nombre d'enfants et d'adolescents québécois atteints de problèmes de comportement, de troubles de l'attention, l'autisme et autres troubles mentaux. Ce qui veut dire, mesdames, messieurs, que ça représente plus de 1 enfant sur 5. Donc, on la reçoit pendant 60 minutes. Elle est avec nous. Bienvenue dans nos studios. Je disais comme ça avant en coulisses, comme on dit avant de prendre le micro, qu'une grande professionnelle a besoin d'écouteurs. Vous vous retrouvez presque chez vous là, dans un studio.
Oui, ben c'est, ouais. L'environnement d'un studio de radio est vraiment extraordinaire. T'sais, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio dans ma vie. Il y a des pros et des contres à chacun. Mais sincèrement, la radio, l'intimité que tu vis quand tu es dans un studio de radio, même si tu es 4-5 dans l'équipe, c'est vraiment extraordinaire. C'est un milieu feutré. Mmh. Tu as vraiment l'impression de parler aux gens. Puis les gens à qui tu parles, souvent, te laissent savoir qu'ils t'ont entendu. Alors, ce contact direct là que tu as avec le public, c'est vraiment extraordinaire.
Alors, Sylvie Lauzon, vous, en ce moment, vous avez vraiment eu une transformation de carrière, mais avant, j'aimerais en connaître davantage sur votre enfance. Vous étiez où?
Alors, moi, je suis née sur l'île de Montréal, à Pierrefonds, sur le boulevard Gouin, sur une ferme. Il en existe encore quelques-unes. Maintenant, mon père vient de vendre sa terre. Là, c'était probablement l'une des dernières fermes qui appartenait à un particulier qui a été vendu. Alors, j'ai grandi sur la ferme. J'étais la plus vieille de 4 enfants. J'ai grandi à jouer dehors, à jouer dans la terre, à aller chercher les vaches avec mon grand-père pour le train dans l'après-midi, à me prendre dans la boue avec mes bottes à eau, à avoir 4 ans, puis à être pris dans un trou de boîte, puis c'est mon grand-père qui vient me sortir de là. J'ai vraiment eu une enfance extraordinaire, beaucoup de liberté et beaucoup... En fait, j'ai vraiment profité de mon enfance et mes parents, comme c'était... Bon, mon grand-père était fermier, donc il y a eu des vaches et c'était pas une grosse entreprise, il y avait une quinzaine de vaches et mon père est devenu horticulteur. Donc ensuite, j'ai grandi à planter des fleurs au plus gros de la carrière de mon père. Là, il y avait quoi? Il y avait une quinzaine de serres sur le terrain. On faisait... Écoute, je plantais des fleurs, je les faisais... J'aidais mon père à les faire pousser. Ensuite, je les vendais au printemps. Alors, ça a été une enfance très près de la nature et une enfance qui m'a permis de grandir, je pense, avec les deux pieds sur terre.
Réaliste.
Réaliste et en même temps, grounded, capable de voir au-delà des apparences. Mm. Parce que quand tu vis près de la nature, comme ça, tu connectes avec l'essentiel. Oui. Et je pense que, et ça, j'en remercie mes parents, je pense que je n'ai jamais perdu ça dans ma vie. Mm. J'espère ne pas m'en être trop éloignée par moment. Et dans le métier des communications, là où souvent l'essentiel n'est pas nécessairement si bien représenté.
Essentiel est conjugué avec parfois superficiel. C'est,
alors
parfois,
ça m'a permis de grandir et de bien vivre jusqu'à maintenant. Alors j'ai 53 ans, j'ai plus que la moitié de ma vie de fait et j'ai l'impression... Je me sens bien dans ma peau et bien connectée.
Justement, quand vous étiez plus jeune, bon, vous avez dit j'ai travaillé la terre, j'aimais ça. Vous aviez des bonnes bases aussi, on vous a donné des bonnes bases par rapport à vos parents. Aviez-vous une idée de ce que vous vouliez faire?
Non. C'est assez fascinant. Moi, j'étais très artistique. J'ai toujours peint, je peins encore aujourd'hui. Ça, c'était très fort chez moi. J'étais la plus vieille de 4 enfants. Je ne pense pas que mon père, surtout, était prêt à accepter que j'aille... Parce que moi, j'aurais fait mes beaux-arts. C'est ce que j'aurais fait si j'avais vraiment... Si je m'étais sentie libre à l'époque de le faire. Alors, je me suis dirigée vers les communications un peu par hasard. J'ai toujours été première de classe. J'adorais lire, étudier. Je suis une lectrice. Je peux lire pendant des heures et des heures. Et le temps... En fait, je trouve que les livres, même les romans, nous apprennent la vie. Parce que quand tu te plonges dans la vie d'un personnage... Ben, t'apprends à réfléchir comme lui, tu traverses les mêmes émotions que lui et quelque part, ça te permet, toi, de partir et de mieux comprendre ta vie.
Donc, vous dévoriez les livres.
Ah, je dévorais tout ça. Oui. Alors, j'étais bonne à l'école, je suis allée en sciences, je suis allée au cégep en sciences. Et là, m'est arrivé un accident, je me suis cassée les deux jambes. J'étais aussi très sportive en jouant au basketball.
Quelque chose,
en fait,
ça, les deux jambes.
J'étais dans le plâtre pendant des semaines, manque un petit peu de cégep. J'ai coulé un cours, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Ça a été une catastrophe dans ma vie à l'époque. Alors, je me suis dirigée plus vers les sciences humaines.
Non, j'en veux revenir avec je veux revenir avec les deux jambes cassées. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous? Est-ce qu'il y a... Ben vous réalisez quelque chose d'autre à ce moment-là, d'être à la maison, d'être de plus rien faire?
En fait, dans ma vie, moi, je suis quelqu'un de très dynamique et j'ai toujours l'impression d'être en train de courir. Mais dans ma vie, à des moments très précis, sont arrivés des accidents qui m'ont complètement immobilisée. C'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Ensuite, j'ai eu un genou un petit peu plus tard dans ma vie. Et à chaque fois, ça a été des moments d'arrêt obligatoires. Quand j'avais 16 ans avec les deux jambes cassées, je ne peux pas dire que j'ai eu de grandes révélations, mais ça m'a obligée à faire un virage important, à changer complètement d'orientation. Ce que j'ai fait, parce que je suis allée tout à coup en sciences humaines et là, j'ai découvert les communications et c'est là-dedans que je me suis dirigée à l'université. Ne pouvant pas ou ne voulant pas faire mes beaux-arts, je me suis dit, tiens, ça, c'est le bout qui ressemble le plus aux arts qui pourrait peut-être être acceptable. Mmh. Alors, je suis allée là-dedans et j'en ai fait 35 ans des communications. J'en fais encore à la fondation que je dirige. On s'entend qu'on fait des communications. Et dans la vie, sincèrement, on fait des communications tout le temps.
Alors, on parle du passage, justement. Vous avez été journaliste. Vous avez débuté à Télé 7.
Sherbrooke.
À Sherbrooke. Ensuite, il y a eu Salut, bonjour. Il y a eu Canal Vie. Animatrice à Rock Détente, comment c'était ces 35 années d'expérience comme animatrice? Parce que vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, c'est quand même assez superficiel parfois. Là.
Parfois, mais en même temps, ça te permet... Les gens qui travaillent dans cet environnement-là sont des gens passionnés la plupart du temps, sont des gens qui adorent partager leur passion. Hein, t'as envie de les partager avec les autres puisque t'es là. C'est un milieu où il y a une grande curiosité. Et pour la grande curieuse que je suis, ça m'a nourri constamment. Quand t'animes une émission, puis il faut que tu parles de 10 sujets différents, oui, t'as des recherchistes qui t'aident, c'est clair, mais je plongeais là-dedans et j'ai dévoré toute ma vie. Cette curiosité-là, les communications m'ont permis de la nourrir et d'apprendre, en fait, d'apprendre ce que sont les relations. Tu développes... Parfois, c'est superficiel, mais en même temps, tu apprends les mécanismes de la communication et tu finis par apprendre comment entrer en relation avec des gens qui ne sont même pas devant toi. Donc, tu apprends des choses que j'aurais pas pu apprendre autrement. Mmh. Mmh. La seule chose qui me nourrissait moins vers la fin, c'est que c'est un milieu... C'est très rare, là. Je suis ici avec toi. L'entrevue va durer une heure dans les communications. Bon, c'est d'une grande rareté. Ça va vite.
Oui, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. C'est court, c'est rapide. Oui. Alors, t'as jamais vraiment... J'avais plus l'impression d'aller en profondeur dans quoi que ce soit. Et sincèrement, moi, j'ai un besoin de profondeur. J'ai un besoin d'aller au bout des choses. Et j'avais pas l'impression que je contribuais assez à la communauté.
Parce que ça allait trop vite.
ça allait trop vite, on n'allait pas en profondeur. À la fin, je faisais de l'information et sincèrement, moi, si... J'aurais adoré faire de l'information à l'époque où René Lévesque faisait son émission Point de mire parce qu'il était là à expliquer. En fait, il n'y avait rien de télévisuel avec sa cigarette, mais il expliquait de façon tellement extraordinaire. Et pour moi, les communications, c'est amener l'autre à mieux comprendre. C'est aller vers cette personne-là, mais en lui expliquant les choses. Pas que je les comprends mieux que les autres, mais comme c'était mon métier, tu plonges là-dedans, tu apprends plein d'affaires. Et je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit en information ou en quoi que ce soit, c'est tellement fait rapidement que les liens qui doivent se faire ne se font pas. Comprendre une chose, c'est faire des liens. Quand on a un éclair de génie, c'est parce qu'on a fait un lien quelconque entre deux, trois événements, deux, trois affaires qu'on a apprises.
Il n'y a pas assez de rétrospection, il n'y a
c'est
pas
en plein ça.
Assez de temps de silence. On a l'impression que notre société, on commande ça avec un clic et que c'est pareil, même, la même chose pour la gouvernance, finalement.
Puis les relations aujourd'hui, on a, tout le monde nous dit, les réseaux sociaux, on est en relation plus que jamais, mais moi, je pense qu'on n'a jamais été aussi peu en relation les uns avec
les autres. C'est paradoxal, dans le fond.
C'est très paradoxal. Et ça... j'espère qu'on va, en tant que société, c'est super les réseaux sociaux, mais qu'on va s'en rendre compte et qu'on va essayer de remettre les choses en perspective un petit peu.
Avoir des vrais amis.
Oui, les amis Facebook, là.
Avoir des
quand
vrais
t'as 5000
amis
Facebook, on s'entend que c'est pas des vrais amis. Surtout quand tu publies sur ton site des choses épouvantables, là, comme ça m'est arrivé dernièrement. Alors, c'est pas ça la vraie communication et c'est pas ça... En fait, il y a une différence entre communiquer et être en relation. Alors, je pense qu'actuellement, on a de la difficulté à communiquer. Alors, comment peut-on espérer être en relation
éloigné, finalement.
Oui.
Alors, vous savez que vous choisissez vos chansons.
Oui.
Mais vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Vous devez dire pourquoi à chaque chanson. Alors, Michel Rivard, Libérer le trésor, pourquoi?
Bien, Michel Rivard, Libérer le trésor, parce que la fondation que je dirige s'appelle la Fondation Les Petits Trésors et qu'on a une campagne qui s'appelle Libérer le trésor et que cette chanson-là, si on lit le refrain, « Il existe un trésor, une richesse qui dort dans le cœur des enfants mal aimés. Sous le poids du silence et de l'indifférence, trop souvent le trésor reste caché. Libérer le trésor, et c'est ma mission et c'est la mission de la Fondation de Libérer le trésor. » Alors, merci à Michel Rivard d'avoir pensé à cette magnifique chanson qui est devenue un classique. Et que je ne me lasserai jamais d'entendre.
On l'écoute.
Alors, nous recevons Sylvie Louzon, directrice générale de la Fondation des Petits Trésors à l'hôpital Rivière des Prairies. Et c'est le seul hôpital pédopsychiatrique au Québec, et ça, on tient à le dire et à le souligner. Alors, on va dans le temps, Sylvie, donc l'animatrice et tout ça, mais l'animatrice devient mère. Et comment ça se passe, le fait d'être mère d'abord?
Ben, en fait, j'ai deux enfants.
Oui.
On entend plus souvent parler du plus jeune qui est autiste, mais j'en ai deux. Mon plus vieux va avoir 25 ans cet été. Alors, j'ai quoi? J'ai 29-30 ans lorsque je deviens mère pour la première fois. Et ça a été... Ça a été et c'est encore une belle expérience. Je dis toujours qu'avec Simon, j'ai appris... je me suis rendu compte que j'étais une mère. Et lorsque mon deuxième est arrivé 7 ans plus tard, je me suis rendu compte que j'étais une bonne mère. Parce que Marc-Antoine... contrairement à Simon, est né avec toutes sortes de difficultés. Il est autiste, en fait. Il est autiste de haut niveau. Donc, à partir de l'âge de 3 ans, se sont enclenchés les processus de diagnostic, de traitement, de
suivi.
C'est
là que vous êtes rendu compte?
Arrive souvent vers cet âge-là. Parce que...
Vous pensez au début qu'il était sourd?
Oui, tu penses souvent. C'est difficile d'établir... concrètement ce que ça représente, mais souvent, tu penses que ton enfant est sourd parce qu'il ne réagit pas. Ma mère, qui habite à 5 minutes de chez moi, venait à la maison. Mon fils ne réagissait pas. Alors, je me disais, il n'entend pas. Là, toute la batterie de cuisine y a passé. J'ai essayé de faire tomber plein de choses autour de lui. Et des fois, il réagissait, des fois pas. Là, tu entreprends des examens. On est allé en audiologie. On voit bien qu'il entend bien. Alors là, il parle pas. Il y a quoi? Il y a 2 ans, deux
ceci
ans et demi.
Il a parlé à 5 ans.
Vers
non,
cinq
ça?
Ans. Il a même perdu ses mots à un moment donné. Il arrive
donc
à
déjà là, en 5 ans, c'est déjà en retard par rapport aux autres enfants.
C'est un gros retard. Ouais. Et là, on a eu un diagnostic bien avant ça. On a eu le diagnostic autour de 33 mois. Alors, tu te poses plein de questions, tu entreprends plein de démarches, tu parles à ta gardienne. Là, les gens, tu fais de la recherche sur Internet, ça t'amène toujours à autisme ou à quelque chose qui ressemble à ça. C'est un petit peu épeurant, mais bon... moi, je me suis toujours dit, il est comme il est. On va me dire qu'on me dise n'importe quoi. Ça ne change pas mon enfant comme tel. Ça ne fait que me dire, voici ce dont il est atteint. Voici ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation. Ça
combien
a toujours
de temps,
été ça.
Combien de temps? Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui se posent probablement des questions, qui ont vu que leur enfant reste pendant une heure avec une petite auto, qui est intéressé par le mécanisme.
Ils répètent souvent les mêmes gestes.
Ou bien n'écoutent pas quand on l'appelle ou quoi que ce soit. Alors, ça a pris combien de temps avant de passer par toutes les batteries, avant d'avoir le diagnostic?
Plusieurs mois, parce que dans ce domaine, en autisme, en fait, tu rencontres plusieurs spécialistes en même temps. Il y a un pédopsychiatre, il y a un travailleur social, il y a une psychologue, il y a peut-être une neuropsychologue. C'est une batterie de spécialistes qui, voit ton enfant pendant que toi, le parent, tu fais une espèce d'historique de la naissance jusqu'à l'âge où tu obtiens les évaluations. Et là, tout ce monde-là ensemble fait le diagnostic final. Ça peut prendre plusieurs mois. Mmh. Il y a des listes d'attente. Encore aujourd'hui, mon fils va avoir 18 ans cet été, là, Marc-Antoine. On parle de d'autres choses maintenant, mais il y a encore des listes d'attente. Donc, tu attends pour le diagnostic. Le diagnostic prend un certain temps. Puis ensuite, les traitements. Et les traitements, c'est pas toujours simple. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être proposées. Si tu es un parent curieux comme moi, tu vas sur le web, tu peux trouver des choses hallucinantes qui vont dans des directions, mais complètement... c'est le monde, là, des thérapies, il y en a des centaines de milliers. Alors, toi, tu essaies de naviguer là-dedans, de trouver la chose la plus... ce qui va t'aider le plus. Moi, j'ai toujours mené 2-3 affaires en même temps de front. J'ai toujours été près du monde hospitalier parce que ces gens-là ont étudié l'autisme. Ils n'ont pas toutes les réponses encore aujourd'hui. On ne sait pas trop ce qui est à l'origine de tout ça. Mais je me suis toujours dit que les gens... En fait, les spécialistes que je croisais... allait m'amener des pistes de solutions. Mmh. Il y en a certaines qu'on a décidé d'explorer, d'autres non. Mais aujourd'hui, moi, je dirais que en tant que parent, c'est toi qui fais le choix, c'est toi qui le pilote. Les autres sont assis dans la... en arrière.
Ah oui, c'est ça. Vous devez avoir le premier rôle
oui,
parce que...
Et il faut le prendre le premier rôle c'est parce ça. Que souvent, c'est impressionnant de rencontrer des gastro-entérologues, des pédopsychiatres et... En fait, il te rencontre, toi, en tant que parent, en situation de fragilité parce que c'est ton enfant à toi mm-hmm. qui a des difficultés. Donc, c'est pas évident, mais moi, sincèrement, je conseille à tout le monde de rester au centre. Nous, on est le spécialiste.
De diriger, finalement,
oui.
ces médecins.
Et c'est toi qui connais le mieux ton enfant, oui. C'est toi qui le connais le mieux, ton enfant. Alors, parfois, le médecin va te faire une observation... Et tu le sais que ça ne tient pas la route parce que tu vis 24 heures avec ton enfant. Donc, c'est de toujours avoir l'ouverture d'entendre, mais d'avoir aussi l'intelligence de dire ça, ça ne convient pas. C'est pas tout à fait ça. Mm-hmm. Est-ce que ça ne pourrait pas être autre chose? Et sincèrement, la plupart des spécialistes qui sont intervenus dans le dossier de Marc-Antoine ont toujours été très ouverts à entendre ce que j'avais à dire comme mère. Mais je dois dire que par moment, c'est pas évident parce que ces gens-là, quand tu les rencontres, ils mettent en avant les choses qui ne vont pas bien. Tu sais, il y a des bouts où je sortais du bureau du médecin ou des spécialistes. J'étais complètement déprimée, puis je me disais, j'y arriverai jamais. On dirait qu'il faudrait que j'aie 5 bacs, 3 maîtrises, puis 6 doctorats pour arriver à faire tout ce qu'on me demande de faire jusqu'au jour où j'ai réalisé que finalement, c'est eux autres, c'est leur job de te montrer, de t'aiguiller. Alors, ils vont t'aiguiller sur des choses qui ne vont pas bien parce que les choses qui vont bien, tu n'as pas besoin de travailler là-dessus tant que ça.
Par contre, au départ, on parlait avec Marc-Antoine que c'était un trouble d'envahissement du développement, d'un TED, comme on dit communément. Et c'est par la suite, juste à vous entendre sur le... Quand on vous a dit, ben voilà, c'est pas ça, c'est le diagnostic, c'est autisme de haut niveau. Comment vous avez réagi?
Ben en fait, 3 ans plus tard, il y avait à peu près 7 ans. Et ça arrive souvent comme ça. Hein. Maintenant, le TED, en fait, c'est quand c'est pas précis à 100%, ils disent... C'est rare qu'ils donnent un diagnostic d'autisme beaucoup avant 5-6 ans. Parce qu'à 5-6 ans, au moment où on peut commencer à mesurer l'intelligence des enfants, c'est là qu'on voit. J'étais pas surprise du tout parce que ça faisait déjà des années que je trempais là-dedans. Puis sincèrement, les diagnostics, pour moi, c'est pas une catastrophe.
C'est un soulagement
parce que ça donne une piste ou des pistes. Mm-hmm. Parce que mon enfant est pas différent... 5 minutes avant le diagnostic et 5 minutes après, c'est le même enfant. C'est juste, qu'est-ce qu'on me dit et à quoi ça peut me servir?
Parce qu'à force de chercher, ça aussi, c'est difficile. On sait que notre enfant a des choses qui ne roulent pas et on ne sait pas quoi. Mais à force de... Et puis, avoir le diagnostic permet de dire, voilà, puis je sais ce que c'est.
Puis il faut se réajuster au fil du temps parce que ce diagnostic-là évolue. Il y a des fois d'autres diagnostics qui s'ajoutent. Alors, c'est de constamment s'adapter. C'est ce que ça prend le plus pour être le parent d'un enfant différent.
Alors, on va en parler tout de suite après ce que c'est que l'autisme, parce qu'il y a évidemment plusieurs niveaux aussi. Et ça, c'est pas tout à fait connu chez les gens, et j'en parle avec vous. Mais auparavant, une chanson.
Oui, laquelle?
Eh bien, de Pharrell Williams, Happy. Ah ben ça.
Ah ben ça, c'est parce que là, on en a tous marre de l'hiver. Uh-huh. Malgré qu'aujourd'hui, il fait super beau, un petit peu plus chaud. Alors, c'est juste pour se mettre dans l'ambiance de ce qui s'en vient. Je trouve qu'on se ferme les yeux, on écoute cette chanson-là, puis on voit du vert.
On écoute.
Say Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Alors, nous sommes en compagnie de Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation des Petits Trésors à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Justement, on parle de l'autisme. Alors, je disais qu'il y a plusieurs niveaux de l'autisme. On ne connaît pas encore tout à fait ce que c'est.
Bien, c'est difficile à expliquer. Sincèrement, Sophie, la chose la plus abracadabrante, c'est que j'aurais été plus en mesure de t'expliquer ce que c'est lorsque j'ai appris le diagnostic que maintenant. Parce qu'à force de vivre avec Marc-Antoine, à force de croiser des parents de d'autres enfants autistes, ils ont beaucoup de choses en commun, mais en même temps, ils ont beaucoup de choses différentes. Alors, ce sont des enfants, très souvent, qui sont impulsifs. Il y en a la moitié qui ne parlent pas, même s'ils ne sont pas déficients intellectuels, qui sont un petit peu dans leur bulle, qui ont des intérêts particuliers, qui font souvent ou posent souvent des gestes répétitifs. Mm-hmm. C'est pas toujours évident d'entrer en contact avec ces enfants-là, mais en même temps, pour moi, c'est un autre monde qui porte en eux. Puis si on peut y avoir, si on pouvait y avoir accès, on en tirerait probablement une richesse. C'est pour ça que Marc-Antoine parle beaucoup. D'ailleurs, moi, pendant des années, j'avais hâte qu'il aille se coucher le soir parce que c'est...
Il parle beaucoup, beaucoup.
Ah, il parle beaucoup. Il arrête presque... Là, maintenant, il est plus vieux. Quand il est sur son ordinateur, je l'entends moins. Mais il y a été une période où il y a souvent aussi des diagnostics multiples. Mon fils est autiste, trouble anxieux, trouble d'apprentissage en maths, bon, des choses comme ça. Alors, ça vient s'ajouter. Son anxiété faisait qu'il pouvait, pendant une heure et demie, me poser constamment la même question.
Alors, l'autisme, il y a le désordre désintégratif, le syndrome d'Asperger, les TED non spécifiques, le syndrome de Rett, tout ça, là. Et il y a aussi plusieurs degrés. Il n'est pas rare de voir un autiste, tu disais qu'il parle énormément, et un autre qui ne
parle
dit pas un seul
tout.
Mot.
Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. En fait, les niveaux, c'est sûr qu'ils présentent des différences. Je ne pense pas qu'en médecine, ils appellent ça des niveaux. Je pense que la principale différence,
degrés,
c'est avec
peut-être?
Ou sans déficience intellectuelle. Okay. Ça peut faire toute la différence. C'est un monde à part. Là. Tout ce dont tu viens de parler, en fait, maintenant, on parle de troubles dans le spectre de l'autisme.
Oui.
Donc,
oui.
Ce sont des gens qui sont souvent refermés sur eux-mêmes, qui ont des intérêts, des passions très, très, très précises. D'ailleurs, c'est souvent ce dont tu te sers de la passion de ton enfant pour lui faire découvrir autre chose,
sortir de son monde.
Alors, il faut vraiment être inventif. J'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à expliquer ce que c'est que l'autisme, mais c'est vraiment...
Parce que c'est plusieurs choses.
C'est
plusieurs choses dont j'ai nommé tout à l'heure.
Ah, oui.
On dit qu'en termes de chiffres, 67 millions de personnes touchées dans le monde...
C'est
beaucoup. Alors, en 2012, là, t'es dans le métier, tout ça, tu commences à être un peu marraine,
oui.
Hein, tu t'intéresses parce qu'il y a ton fils.
Et suivi à Rivière-des-Prairies.
Exactement. Et là, on t'offre le poste, en fin de compte, de cette fondation. Raconte-moi comment ça se passe, pourquoi, et pourquoi avoir dit non aussi à ta carrière d'animatrice?
Ben, en fait, je commençais à sentir le besoin de m'engager plus à fond dans quelque chose et je sentais plus que je pouvais le faire dans les médias. Pour moi, dans les médias, c'est extra, là, je passe des heures à regarder la télé puis à écouter la radio et j'adore ça, mais ça manquait de profondeur. Tu sais, on a tous une mission et je pense que j'étais pas entièrement dans ma mission dans les médias. J'ai appris ce que j'avais à apprendre des communications. Ça faisait une dizaine d'années que je cherchais quelque chose qui me nourrirait davantage et quelque chose qui me permettrait de contribuer davantage. Alors là, je suis porte-parole de la Fondation et tout à coup, j'avais envie de m'impliquer davantage. Alors, je suis allée rencontrer le président du CA. Je lui dis, est-ce que j'ai envie d'en faire plus? Je pourrais faire du développement pour la Fondation. Je lui parle de ma vision des choses. Et là, il me dit, Sylvie, bientôt, en fait, on a un poste de direction générale. Ça te tente-tu? Et moi, j'ai pas réfléchi beaucoup parce qu'on parle quand même d'un poste de gestionnaire. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et comme j'ai souvent agi par passion dans ma vie, alors j'ai plongé. Moi, j'ai toujours préféré me casser la gueule que de refuser de plonger. Ça m'intéressait, ça m'allumait.
J'aime bien ça va mettre sur le frigo, cette phrase-là.
Ah, ben, en fait, mon envie était plus forte que ma peur. Et ça t'amène à plonger. Et j'ai toujours été comme ça dans la vie. Et même si des fois, il a fallu que je bride ma peur pour arriver à plonger, mais cette fois-là, j'ai plongé. Peut-être parce que j'étais un peu naïve, parce que 3 ans plus tard, là, j'entame ma 3e année. En fait, il y a des choses que j'avais mal évaluées. Ben, en fait, j'avais rien évalué comme du monde, puisque je connaissais pratiquement rien à ce monde-là. Mais c'est fascinant de... En fait, la santé mentale, parce que l'autisme, c'est pas un problème de santé mentale, c'est plus un état, mais c'est suivi en pédopsychiatrie.
Mm-hmm. C'est comme deux secteurs,
oui, finalement. Oui, il y a deux secteurs. Ouais. Et il faut en parler. C'est le problème du siècle. 1 enfant sur 5. Là, la santé physique, c'est extra. On a fait de la recherche. On en a encore beaucoup à faire. Mais 1 enfant sur 5, si on s'en occupe pas, ça veut dire que 20% des adultes de demain vont avoir des difficultés sérieuses.
Et je veux citer le chiffre et le donner. C'est 5000 nouveaux cas chaque année. Oui. Au Québec?
Ben, en fait, juste à l'hôpital, pas... Parce qu'au Québec, un hôpital, tous les hôpitaux au Québec se doivent de faire de la pédopsychiatrie et donc ils reçoivent des enfants. Nous, à Rivière-des-Prairies, on est un hôpital spécialisé. Donc, on reçoit les cas les plus difficiles. 5000 enfants, là, c'est les cas les plus difficiles. C'est des enfants qui ont des déficits de l'attention, qui font de l'anxiété, mais on parle de troubles. On parle pas d'un enfant qui a une anxiété de performance parce qu'il y a un examen puis qui est un petit peu nerveux. L'anxiété, là, pour les gens qui le vivent, ils savent à quel point ça t'empêche de vivre et de fonctionner. Essayez de vous imaginer votre tête avec remplie... En fait, vous pouvez réfléchir à rien parce que tout ce qui se promène dans votre tête, c'est des peurs, c'est des choses qui reviennent de façon récurrente. Il n'y a aucun espace pour apprendre et pour grandir. La plupart des problèmes de santé mentale, c'est ce que ça fait. Donc, ton enfant... Quand on parle, il y a une fondation qui a un slogan qui s'appelle « Naître et grandir », la fondation André Chagnon. Je trouve que ce slogan-là est extraordinaire. Ton enfant naît, mais ton enfant est incapable de grandir. Il est incapable de jouer. Il est incapable d'établir des relations fructueuses avec les autres. Alors, c'est un problème majeur. Et quand on parle de troubles sévères, ça affecte l'enfant, sa famille, parce que c'est pas un problème de santé qu'on peut régler en 2 temps, 3 mouvements. Il faut qu'il y ait des évaluations. Les traitements, les thérapies, c'est long avant qu'on voit des résultats positifs. Même chose pour la médication. La médication, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est pas comme une aspirine. Une demi-heure après, t'as plus mal à la tête.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que, au niveau des hôpitaux, en première ligne, je pense que c'est pas le vôtre. Hein? Je pense que c'est Rosemont.
Mais en fait, dans notre secteur, mais t'as Sainte-Justine qui fait de la première ligne, t'as Children qui fait de la... Ils font tous de la première ligne. Ils font un petit peu de deuxième ligne, mais ça, c'est...
Donc, il arrive, cet enfant-là, arrive, ça va pas. Anxiété, ça peut être aussi des problèmes... envie de mettre fin à ses jours.
Oui, ça, ça arrive énormément.
Il y en a beaucoup.
1 enfant sur 10, oui, avant 10 ans, a déjà eu des idées suicidaires.
C'est quelque chose, ça. Alors, Sylvie se sent pas bien, il s'en va à l'hôpital Rosemont, par exemple. Et quand est-ce qu'il vient vous voir, à l'hôpital Rivière-des-Prairies?
Ben, en fait, très souvent, il y a une référence qui est faite quand on n'arrive pas à bien cerner le problème, parce que chez nous, on a la masse critique des cas les plus difficiles. Donc, parfois, on voit des choses qu'en première ligne, il n'arrive pas à cerner. Mais moi, je vous dirais qu'en tant que parent, parce qu'on ne peut pas débarquer à Rivière-des-Prairies comme ça, c'est un hôpital spécialisé, ça prend une référence médicale, exigez-le. Si, il y a dernièrement une maman qui m'a appelée, sa fille de 14 ans, deuxième tentative de suicide. Bon, elle n'est plus à l'hôpital. Évidemment, vous vous doutez de ce que c'est. Sa mère a toujours peur qu'il arrive quelque chose. Elle ne sait plus quoi faire.
Donc, on pourrait demander, le parent pourrait dire, voilà, je veux directement aller à Rivière.
Je ne vous dis pas que ça va être facile. Mais je ne vous dis pas que votre médecin traitant va
dire... Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est important de dire que finalement, c'est vous qui êtes au centre de tout ça.
Mais on n'a pas toujours envie de livrer des batailles, mais sincèrement, pour vivre avec mon fils autiste depuis presque 18 ans maintenant, ce ne sont que des batailles. Des batailles avec les intervenants à l'école. Ça ne veut pas dire que ça va toujours mal, mais c'est toujours des batailles. Une bataille après l'autre.
Les batailles avec un médecin aussi, vous avez dit que c'était un autre diagnostic d'avoir mal au ventre, là, finalement, qu'on vous avait donné.
Et puis, des fois, tu te fais dire des drôles de choses par les médecins. Et moi, ça, je ne l'ai jamais accepté. Bon, peut-être que... Et je pense que je suis assez ouverte. Alors, exigez. Et vous... Parce que, dans le fond... vous risquez d'avoir des réponses à vos questions par ces gens-là qui sont des spécialistes et qui envoient 5-6 000 par année, qui donc ont la masse critique pour mieux évaluer encore qu'en première ligne.
Alors, on revient en parlant de la Fondation, ce qu'elle fait tout de suite après. Avant, il y a une chanson hawaïenne.
Ah oui! En fait, hawaïenne. C'est Somewhere Over the Rainbow. C'est un film que j'adore. Là. Ça vient du magicien d'Oz.
C'est aussi gay, agréable, oh, oui. Qui fait du bien à l'âme.
Qui dit que tu marches sur ta route et que tu finis toujours par arriver là où tu as envie d'être et tu te rends souvent compte que là où tu étais, c'est pas si mal finalement. Mais ça, faut pas le voir, faut juste l'entendre. C'est comme une nouvelle version de cette chanson-là qui me met de bonne humeur.
On l'écoute. Sylvie Lauzon oui. Est avec nous. Alors, Sylvie Lauzon, la Fondation, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, on a parlé de l'importance de, une fois qu'on sait que notre enfant a quelque chose, on peut diriger pour dire, moi, je veux qu'il aille à cet hôpital, Rivière-des-Prairies.
Là, on va vous dire, évidemment, si c'est assez sérieux pour ça, mais je pense qu'il faut exiger. Comme dans n'importe quoi aujourd'hui, il faut pratiquement que tu exiges souvent des choses et... Sinon, ça n'avance pas toujours à ton goût. Mm. Tu sais, puis je pense que la chose la plus importante, quand tu travailles avec une équipe de spécialistes, là, on parle de médecins, de travailleurs sociaux, de psychologues, il faut qu'il y ait une chimie. Mais... Il faut vraiment... Et je sais que des fois, on n'a pas le choix parce qu'il y a tellement peu de gens disponibles. Mais sincèrement, il faut que tu aies une chimie, que tu aies un contact positif avec ces gens-là parce que ces gens-là, tu vas communiquer avec eux souvent et tu vas surtout communiquer avec eux quand ça va mal. Mmh. Alors, pour moi, la chimie... En fait, moi, dans ma vie personnelle, j'ai choisi de ne plus faire affaire. Même mon gars de piscine, j'ai de la chimie avec lui parce que, sincèrement, je n'ai pas envie d'avoir dans mon environnement des gens qui n'aiment pas leur travail.
Des gens bêtes.
Oui, des gens bêtes et des gens qui sont malheureux. J'ai envie d'avoir des gens qui sont heureux de faire ce qu'ils font puis qui ont envie d'avoir une belle relation avec moi.
Ah oui.
Quelle qu'elle soit.
C'est une très bonne philosophie, ça.
Ce qui fait que des fois, tu es obligé de flasher ton gars de piscine ou ton électricien, mais
ben,
il y en
c'est
a,
correct
y en a
qu'il y en a d'autres avec des
ouais.
sourires qui ont envie de le faire et qui sont passionnés.
Oui.
Qui sont passionnés. Mais est-ce que c'est pas trop lourd? Parce que je m'adresse à des gens, il y a des auditeurs qui écoutent en ce moment et qui doivent se dire oui, mais moi, livrer une bataille, quand je suis en train d'en livrer une avec ma fille ou mon fils qui a une maladie mentale, c'est trop lourd pour moi.
Je peux comprendre ça, et souvent la situation, je l'ai trouvée trop lourde, mais moi, quand je me mets en action, personnellement, ça m'aide. Même pour moi, livrer une bataille, c'est se mettre en action, c'est aller à la recherche, c'est mettre la solution que tu as choisie en marche. Alors, ça devient moins lourd. Moi, c'est beaucoup plus lourd pour moi quand je suis devant un mur et que je ne vois rien. Je ne vois pas de piste de solution, je ne vois pas de porte s'ouvrir. Essayez de voir ça comme ça. En fait, si vous stagnez dans la lourdeur, bien, la lourdeur ne disparaîtra pas. Là. Elle va toujours être présente. Pour moi, la solution à mes noirceurs, à mes moments de noirceur, c'est de me mettre en action. Mm. Puis des fois, tu ne sais pas où ça va te mener.
C'est un merveilleux placebo.
Oui. En fait,
dans le fond.
Puis peut-être que tu vas découvrir des choses extraordinaires. Mmh. Et je le fais dans... Parce que moi, j'ai une tendance... J'ai longtemps vu le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. C'est ma nature. J'ai plus une nature, je dirais, qui a tendance à voir le noir que le clair. Mais avec les années, j'ai appris qu'en me mettant en action, en faisant un tout petit pas parfois, parce que des fois dans la vie, bon, quand ça va super mal, ça arrive à tout le monde, t'as juste à prendre le temps d'entendre ce que les autres ont à raconter de leur vie. Tu vois que t'es pas seul. Tu vois que tout le monde vit par moments des situations d'une grande noirceur. Bouge.
Alors, il faut de l'aide.
Oui.
Donc, les maladies traitées donc à la pédopsychiatrie,
les plus connus. Il y a 300 diagnostics.
Il y a différents troubles d'anxiété, troubles bipolaires, dysphasie, phobie, psychose, schizophrénie,
dépression,
troubles dépressifs, oui, troubles obsessionnels, compulsifs, le trouble réactionnel de l'attachement. Alors, donc, la Fondation offre quoi?
En fait, nous, on est le partenaire philanthropique de l'hôpital Rivière-des-Prairies, qui est le seul hôpital spécialisé en pédopsychiatrie au Québec. Donc, ce qu'on fait à la Fondation, on recueille des fonds et on finance de la recherche, parce que ça, il s'en fait jamais assez. Je dis toujours qu'on connaît mieux ce qui se passe à la planète Mars que ce qui se passe dans notre cerveau. Mmh. Cette recherche-là va nous permettre de développer de meilleurs outils pour développer de meilleures thérapies, offrir de meilleurs soins aux enfants qui ont ces difficultés-là. Et ça, pour moi... Ça passe par là. C'est un pôle important, la recherche. Il y a les soins cliniques à l'hôpital. Il y a diverses cliniques. Il y en a une en déficit de l'attention. Donc, ces gens-là travaillent à développer des moyens novateurs de venir en aide aux enfants et à leurs familles. Et c'est drôle parce que tu faisais la liste d'une partie des troubles qui sont traités en santé mentale pédopsychiatrique. En fait, ça a l'air compliqué, tout ça, et on ne se rend pas compte... Ces diagnostics-là ou ces troubles-là, il n'y a pas si longtemps, on ne pensait jamais que ça pouvait affecter les enfants. C'est, je pense, la raison pour laquelle il faut faire encore beaucoup de sensibilisation. Déjà, quand on parle de santé mentale adulte, il y a encore beaucoup de préjugés.
Il y avait des tabous énormes.
Énormes. Ouais, il y en a encore plus pour les enfants. Tu sais, on ne pensait pas qu'une psychose, ça pouvait arriver à un enfant. Bien, la semaine dernière, il y a deux parents qui sont débarqués dans mon bureau. Leur fils de 11 ans est en... pré-psychose.
Ah.
Et là, il y a un gros projet qu'on pilote avec l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal qui s'appelle le projet CITÉ, qui vise à vraiment développer de la sensibilisation, des cliniques ambulatoires et des soins particuliers pour les jeunes, les premières psychoses, c'est-à-dire de 14 à 25 ans. Quand c'est une psychose, là, d'accord, ça n'affecte pas une grande, grande partie de la population, mais si ça n'est pas, si on ne le traite pas en prévention, si on n'arrive pas à suivre et à traiter le jeune, il va y en avoir deux, puis 3, puis 4. Cette vie-là, elle est pratiquement perdue.
C'est déjà un enfer pour la famille, pour l'enfant. Et je voudrais revenir aussi sur les enfants qui sont traités parce qu'ils ont des problèmes suicidaires.
Ça, c'est vraiment dramatique.
D'après vous, qu'est-ce qui se passe?
C'est tellement difficile à dire. En fait, moi, c'est pas le genre de problème, mais j'ai croisé tellement souvent. Je pense à cette mère. Elle, son fils, 14 ans, que j'ai vu, un beau garçon. On était dans un match de hockey parce qu'on avait eu la chance d'avoir des billets pour aller voir le Canadien de Montréal. Ce jeune garçon-là qui était hospitalisé parce qu'il avait fait une tentative de suicide était là, beau comme un cœur, heureux. Ça aussi, c'est un préjugé. On pense que les gens qui sont dépressifs et qui sont suicidaires le sont 24 heures par jour. Il y a des moments de bonheur tout de même dans une journée. Et cette mère-là tentait de m'expliquer. En fait, elle ne comprenait pas elle-même. Pourquoi mon enfant, si beau, si talentueux, si plein de qualités, a envie de mourir? C'est impossible. Je pense pas qu'on puisse l'expliquer. Il y a sûrement... on est tous porteurs. On est avec... Je pense qu'on... Quand je dis que moi, j'ai toujours vu le verre à moitié vide, j'ai eu des pensées suicidaires, moi, quand j'étais dans la vingtaine. J'ai choisi, à un moment donné, de voir les choses autrement. Je pense que ces gens-là portent en eux une partie de ça, puis il faut qu'ils apprennent le bonheur. Je pense que le bonheur n'est pas facile pour tout le monde, mais je pense qu'on peut tous agir et on peut tous s'en aller vers le bonheur plus facile. Et ça, c'est pas sorcier. Il y a beaucoup de courants, spiritualité, tout ça. Il y a beaucoup de choses extraordinaires là-dedans. Mais à chaque fois qu'on parle de ça, les gens ont tendance à nous dire « Oh, toi, tu vois la vie en rose. » C'est pas de voir la vie en rose. Si moi, là, je passe des heures et des heures à m'imaginer le pire et que ça arrive et que je me dis... Là, pourquoi ça marche dans ce temps-là? Alors que si je me mets à imaginer le meilleur, pourquoi tout à coup je suis fleur bleue, je vois la vie en rose, puis j'ai pas de bon sens? Il suffit de rester réaliste là-dedans. Mais alors, c'est de changer, c'est de transformer notre façon de voir les choses. Puis je pense qu'avec un enfant, il y a beaucoup plus d'incompréhension parce qu'on sait pas d'où ça vient, parce que c'est faux de dire que les parents des enfants qui ont des tendances suicidaires sont de mauvais parents. C'est la dernière chose à laquelle il faut
ça,
penser.
Ça, c'est lourd, là, des gens qui disent ça.
Ben,
c'est parce que c'est un petit peu
ça qui circule. Les tabous, c'est ça.
C'est quelque chose.
En santé mentale, tu ne sais pas élever ton enfant, il fait des crises, tu es un mauvais parent. C'est constamment à
c'est
ça
terrible,
que tu es confronté.
Ça. Alors, deux porte-paroles.
Oui.
Sophie Préjean, Guy Lafleur. Oui. Et puis, il y a aussi des événements. Il faut le dire, parce que moi, je tiens absolument, on va le mettre sur notre site, l'émission aussi, c'est ce but-là, de vous faire connaître. Il y a des campagnes avec les pharmacies Brunet. Il y a des journées golf et vélo en septembre, donc ça arrive bientôt. Il y a la campagne où les gens courent aussi pour vous.
Oui, il y a un défi caritatif qui arrive à la fin du mois d'avril, la Banque Scotia. Ça, c'est le fun, ça se passe sur l'île Sainte-Hélène ou l'île Notre-Dame, là, sur le circuit de Gilles-Villeneuve, en fait. Et là, c'est très agréable. Marc-Antoine, mon fils, et moi, on court toujours le 5 km ensemble. Et on a, si ça vous tente, jusqu'à la fin du mois de mars, une campagne dans les Couches-Tard du Québec avec des rondelles à l'effigie de Guy Lafleur. C'est une artiste québécoise qui a fait les portraits. Elles sont magnifiques.
Oui,
sincèrement,
ça, c'est superbe,
c'est magnifique.
Des beaux posters aussi avec toujours des slogans qui sont différents. J'essaye de me... Alors, je ne suis pas un monstre. 10% des garçons de 6 à 11 ans ont des déficits d'attention et ou sont hyperactifs. Et puis, Je ne suis pas un fou.
Et je ne suis pas une tête de mule.
Je ne suis pas une tête de mule, c'est très bien. Puis on voit aussi Guy Lafleur qui est là. Alors, important, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ça en prend pour faire des recherches,
améliorer les soins.
Oui, passer le message aussi.
Oui.
Hein.
Sincèrement, là, j'aimerais qu'on crée une grande vague au Québec d'empathie pour que tout à coup la santé mentale... C'est drôle de dire ça comme ça, mais j'aurais envie que la santé mentale devienne une maladie comme les autres. Mmh. C'est-à-dire que, tu sais, moi, quand je vois là, un jeune enfant qui est atteint de leucémie, qui accorde une entrevue à la télé, puis c'est dramatique sa situation, même il risque peut-être de perdre la vie, mais il est heureux, il profite de cet instant-là parce que tout à coup, il est important.
Oui, c'est ça.
Bien, en santé mentale, nos enfants, c'est pas du tout comme ça qu'ils se sentent. Et j'aimerais que ça se transforme un petit peu et qu'ils puissent arriver à ne pas se sentir à part.
J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit justement qui faisait des psychoses, qui m'a dit « Sophie, j'aimerais tellement avoir un grand, grand ruban autour de ma tête blanc pour qu'on me dise « Oh, vous avez mal à la tête » parce que personne ne sait que je souffre, il souffre en silence et quand il dit
sa souffrance, on ne le croit pas.
Ben, c'est difficile à croire, c'est difficile à imaginer. Et la santé mentale a quelque chose d'intangible et il faut commencer à la rendre concrète.
Alors, on revient avec quelques petites notes de musique et puis c'est la fin de l'émission avec le jeu questionnaire, Sylvie. Quels sont les livres que vous nous recommandez?
Ben, en fait, il y a des livres que je relis tous les ans. Je relis Le Petit Prince. Je sais que ce sont des classiques. Je relis Jonathan Livingstone, Le Goéland. Je relis L'Alchimiste. Et sincèrement, ces livres-là me permettent de m'ancrer et de revenir à l'essentiel. Tu sais, dans L'Alchimiste, là, il part au bout du monde, mais il se rend compte que c'était chez lui qu'il avait toutes les réponses. Alors, peut-être aller en dedans.
En dedans de chez lui.
Oui.
Les artistes.
Les artistes. Et boy, les artistes. Ça, j'aurais de la difficulté. Et j'ai vraiment une difficulté.
Ils étaient un peu avec nous aujourd'hui, là, musicalement.
Oui, en fait, tout ce qui rend heureux. Et j'aime beaucoup Alexandre Jardin, soit dit en passant. J'ai un faible pour la littérature, je lis beaucoup. J'aime beaucoup Alexandre Jardin, entre autres choses. Dans les artistes, il n'y a rien qui me vient, là, mais je suis une grande fan de cinéma. J'aime me faire raconter des histoires.
Les villes que vous préférez?
En fait, les villes que je préfère, il y a Paris que j'adore.
Pourquoi?
Parce que j'ai l'impression de me retrouver chez moi. Tout le monde dit que les Parisiens sont chiants. Je ne sais pas, moi, je ne les ai jamais trouvés chiants. Je suis allée à Saint-Pétersbourg et j'ai pleuré devant le musée de l'Ermitage. C'est une ville extraordinaire avec un passé extraordinaire. J'ai beaucoup voyagé. Il y a encore plein d'endroits que j'aurais envie de découvrir. Alors, je vous dirais que mes villes préférées sont peut-être celles que je n'ai pas encore visitées.
Intéressant. Merci beaucoup.
Oh, merci, Sophie. Et c'était très agréable.
On va mettre sur le site l'adresse de la Fondation, donc des petits trésors et puis aussi les différents événements à venir pour que les gens puissent donner de l'argent. Merci, Sylvie Lauzon. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien La Liberté, qui signe l'émission, de la réalisation de l'émission, Christiane Campagna et Claudia Benoît aux médias sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye bye.